L'expérience commence. Mathilde Webel nous fait entrer à l'intérieur d'une maison afghane, dans laquelle les femmes vivent sans pouvoir prétendre à une vie extérieure. Elle enregistre, comprend, puisqu'elle a appris le pachto, et nous raconte ce qu'elle a vu et vécu pour sentir au plus proche le quotidien de ces 7 femmes dans ces 4 murs à Kaboul en 2022. La réalisation est signée Gilles Mardi-Rossian.
Appel au secours. La porte est ouverte.
Salam. Salam alaikum. Ça y est, hey. Manana, je vais le dire. Salam, salam, ça y est, hey, je vais.
Moi je m'appelle
Saïd,
j'ai 32 ans, moi je viens d'Afghanistan, je suis arrivé en France en 2015. Quand je suis arrivé, c'était vers 18h comme ça, puis il y avait la pluie, je me souviens de ça. Je suis arrivé à Gare de Lyon. C'était très bizarre, la gare, il y avait sorti, il y avait des gens partout. J'étais un peu perdu. Mais dans le train, j'ai montré, il y avait un monsieur à côté de moi, qui était assis à côté de moi, donc je lui ai montré juste la poteau de la tour Eiffel. C'est la seule chose que je savais sur la France qu'il y a, la tour Eiffel. Pourquoi je voulais y aller là-bas? Moi, je pensais que je vais trouver mes amis là-bas. J'ai cherché, j'ai regardé un peu. Moi, j'avais entendu qu'il y a des migrants, il y a des qui dorment dans les parcs, tout ça. Il y avait un monsieur qui était assis. Moi, je connais par son visage qu'il était pakistanais ou indien. Pas directement, j'ai pas commencé en urdu, en hindi. Bah, j'ai dit. Ils sont où des migrants? Bah, il m'a dit qu'il pouvait aller à Gare de l'Est. Il y avait vraiment, il y avait des Afghans, il y avait d'autres nationalités aussi. À Gare de l'Est, il y avait un endroit, il y avait des gens, il y avait des bâtiments en fait. Voilà, on est dormi juste en bas du bâtiment. J'ai essayé d'appeler à mon ami, mais à l'époque, il avait pas le portable. Je sors de la parc, je le trouve à la rentrée du parc. Ah, j'étais super content. Et après, on est parti dans une lycée qui était abandonnée. Il y avait d'autres migrants, on est resté un mois et demi, je crois.
Sept femmes, quatre murs et un toit, une maison afghane. Kaboul 2022. Un documentaire de Mathilde Webel et Gilles Mardi-Rossian. J'ai rencontré Saïd en septembre 2015. Il était à Paris depuis quelques semaines et après avoir dormi dehors aux alentours de la gare de l'Est, il s'était retrouvé dans le lycée Jean Carré dans le 19e arrondissement, qui était alors occupé par plusieurs centaines d'hommes, femmes et enfants qui, comme lui, avaient atterri là un peu par hasard après un long voyage vers l'Europe. C'était le 17 septembre. Je venais de rentrer à Paris et je m'apprêtais à reprendre mon master de littérature à la Sorbonne. Moi aussi, j'étais là un peu par hasard. Je ne le savais pas encore, mais ma rencontre avec Saïd, dans la cour du lycée Jean Carré, allait changer ma vie. J'ai continué à venir le voir au lycée, où j'avais commencé à donner des cours de français. J'ai rencontré ses amis, Sabir, Naïm, Habib et les autres. Ils me parlaient de leur pays, l'Afghanistan, avec passion et déjà beaucoup de nostalgie. Là-bas, ils avaient laissé une femme, des enfants, une maison. Les années ont passé. Saïd et ses amis ont appris le français, et moi leur langue, le pachto. Et puis un jour, j'ai su que c'était mon tour de faire le voyage en sens inverse. Je devais aller voir d'où ils étaient partis, partager un peu de leur Kaboul fantasmé.
Moi, là-bas, dans notre région, les gens, ils font la vie collective. Ils restent ensemble, les frères, par exemple. Ils restent avec ses parents pendant longue durée, en fait. Mais les enfants des frères, ils grandissent, mais ils restent toujours, ils vivent toujours ensemble. On est beaucoup quand même, près 45 dans les mêmes maisons. Mais j'ai une grande maison là-bas, plusieurs chambres. Ma femme, elle était avec ma mère et mes frères.
Depuis 2018, j'ai séjourné dans plusieurs familles afghanes et rencontré les femmes, les mères, les enfants de ces hommes désormais parisiens. J'ai beaucoup écrit sur eux, sur elles. J'ai commencé à travailler comme interprète. À Paris, Kaboul et Lesbos, partout où il y avait des Afghans. Partout où je pouvais tenter de leur rendre un peu de ce qu'ils m'avaient donné. Août 2021. Les talibans prennent le pouvoir. Octobre 2022. Je ne sais pas ce qui m'attend en Afghanistan. Mais il faut continuer de raconter l'histoire de celles qui sont restées là-bas. Je pars avec Sarah, qui parle pachto comme moi et est ingénieure du son. C'est elle qui fera les prises de son si les femmes acceptent d'être enregistrées. Accéder à l'univers des femmes pachto n'est pas simple. C'est parce que nous parlons toutes les deux leur langue et parce que je fréquente la famille depuis plusieurs années que nous pouvons imaginer cette rencontre. La maison pachtoune traditionnelle abrite toute la famille, des grands-parents aux petits-enfants. Elle est entourée d'un mur d'enceinte qui protège les femmes des regards extérieurs. Les fils se sont mariés et leurs femmes les ont rejoints. Les filles sont parties s'installer chez leur mari. Dans la maison de Saïd, 45 personnes vivent sous le même toit. On n'y est jamais seul. On vit en communauté, comme il dit. Chez les Pachtounes, qui respectent la loi de la pourda, qui veut dire rideau, les femmes doivent rester invisibles aux regards étrangers. Cachées dans les maisons, elles ne sortent que rarement pour aller chez le médecin ou rendre visite à une parente. Ce sont les hommes qui font les courses. La maison est à la fois une prison et une protection contre le monde extérieur. Elle représente l'intimité de la famille, et les femmes qui s'y trouvent, son honneur. Le quotidien s'organise autour des tâches ménagères qui se répètent chaque jour. Dans la maison, ni chaise ni table, mais des petits matelas qui bordent les pièces et qu'on appelle toshak, qu'on utilise pour tout. Manger, se reposer, discuter et le soir, dormir. Et partout des tapis. Toutes les tâches sont effectuées au sol. Préparation du pain le matin, allumage du feu et préparation du thé pour le petit déjeuner, découpage des légumes pour la cuisine, vaisselle, lessive à la main dans des bassines. les femmes passent de longues heures à travailler accroupies. Dans la maison, il y a Mina, l'épouse de Saïd. Elle a 21 ans et est mariée depuis 2 ans. Le couple est fiancé depuis l'enfance, par décision familiale. À peine Mina était-elle enceinte que Saïd a dû partir en France, la laissant seule avec sa grossesse. Et puis il y a Asia, 17 ans, qui a été fiancée à un cousin alors qu'elle n'avait que quelques mois. Son fiancé, qui a aujourd'hui 21 ans, est parti en Allemagne. Personne ne sait quand il pourra revenir. En attendant, Asia lui parle au téléphone et tente d'obéir à ses ordres. Ne pas sortir de la maison, ne pas parler aux inconnus, ne pas donner prise au commérage, être une fille bien. Il y a aussi Basri. J'aime sa manière d'être, son détachement, sa fatigue, sa voix un peu rauque qui ne fait pas l'effort d'être douce et féminine. Basri rayonne malgré sa pâleur. Tout en bleu turquoise, adossée au mur, elle laisse son fils lui grimper sur les genoux sans lui prêter attention. Basri ne cherche pas à jouer un rôle. Elle est là parce qu'il le faut bien. Porte un beau voile bleu clair qui lui donne un air angélique parce que c'est comme ça qu'on s'habille ici. Mais elle n'a rien déterré. Elle remplit ses obligations. Fait des enfants parce que c'est ce qu'on lui demande. Mais elle ne joue pas à l'illusion du bonheur. Dans la maison, il y a aussi Wali, Nazim, Ahmad, Shafika et leurs enfants Nadia, Nazia, Rahmatullah et tous les autres. Dans les mariages, il y a environ 100, 150, 200 invités. Rien que les femmes, elles doivent être 200 ou 300. Et les hommes, ils viennent tous. Les hommes restent entre eux et les femmes restent entre elles. Pour échapper à la cuisine, la vaisselle, le ménage et les soins aux enfants qui se répètent à l'infini, il y a les mariages et les fêtes qui permettent de s'extraire pour quelques heures du quotidien. Mais pour celles qui reçoivent, accueillir jusqu'à plusieurs centaines de personnes représente une immense charge de travail. Mina me dit que lors des mariages, les hommes se retrouvent entre eux à l'extérieur et les femmes dans les maisons. Elle dit, eux, ils sont libres. Traditionnellement, les fiancés ne peuvent pas se rencontrer avant le mariage. Ce n'est qu'après la cérémonie, qu'on appelle Nikah, qu'ils peuvent se voir et se parler. On aime se réjouir des mariages à venir. On s'achète des vêtements, on fait des essayages entre belles-sœurs. On demande aux unes, aux autres, ce qu'elles ont acheté. On se prépare pour être belles le jour du mariage.
سنته بیا بدیت دوی خوشالی کوي یو خبرې دار چې دوی بدیغه خوشالی کوي او بل چې
les circoncisions des garçons sont aussi des occasions de se réjouir comme les mariages
اول که او چې تاسو مونږ کور ته راشي بیا بد ټول د مخام دوی پلان نسی سبب مونږ
on avertit tous les voisins la veille
cause dai یو دی مونږ بیا ټول خوشالی ګو
ces jours là même ceux qui sont tristes sont heureux et ceux qui sont heureux le sont encore plus. On va chez les voisins, on mange, on boit du thé et vers 15-16 heures on rentre chez nous. En retournant en Afghanistan après l'arrivée au pouvoir des talibans, je voulais savoir si quelque chose avait changé pour les femmes de la famille. On parlait beaucoup de décrets de plus en plus liberticides envers les femmes. Interdiction d'étudier, interdiction de sortir seule, interdiction de voyager. Et pourtant, je savais bien que pour les femmes de la famille de Saïd, cela ne changeait pas grand-chose. Chez les Pashtuns traditionnels, rares sont les femmes autorisées à aller à l'école après l'âge de la puberté. Et leur sortie en dehors de leur maison se compte sur les doigts d'une main. Quelques rendez-vous médicaux, une visite chez une voisine peut-être. C'est tout. Avant les talibans et après. Mina me dit, ce qui nous rend le plus triste, c'est que nos filles n'aillent plus à l'école. Si nous avons des problèmes de femmes, comment pouvons-nous en parler à un homme ? Si les filles ne font pas d'études, comment aurons-nous des médecins femmes ? C'est un grand problème que les talibans interdisent l'école aux filles après la sixième année de primaire. Nous, on est musulmanes. On ne peut pas montrer notre visage aux hommes. Comment est-ce qu'on pourrait leur parler de nos problèmes de femmes ? Comment dire à un homme, j'ai mal là, à la tête, au visage ? C'est quoi cet islam ? Jusqu'à la sixième année, mais ce sont encore des enfants en sixième année. Il n'y a pas de grands. Et si j'ai mal aux yeux, comment pourrais-je dire à un homme que j'ai mal aux yeux ? Moi, je cache mon visage aux hommes. Ils ne voient pas mon visage. Si les filles font des études, elles deviendront médecins ou professeurs. Elles pourront nous donner des cours. Et parmi nous aussi, il y en aura qui deviendront médecins, professeurs, ingénieurs. Comme dans les autres pays, où les femmes et les hommes occupent les mêmes emplois. On a entendu ça, on l'a vu à la télévision. Il y a des endroits où il n'y a pas du tout de télévision et où personne ne la regarde. Mais certaines d'entre nous avons entendu que dans les autres pays, hommes et femmes faisaient les mêmes travaux, les mêmes études. Mais ici en Afghanistan, ça ne peut pas arriver. Je ne sais pas ce que c'est que cet islam et ce que ça veut dire. Mina regrette de n'être jamais allée à l'école. Elle reprend un argument en faveur de l'éducation des filles que j'ai souvent entendu en Afghanistan. Et elle soulève une question fondamentale. Si la jeune génération de femmes n'est plus autorisée à faire des études, qui soignera les femmes ? À Kaboul, il y a un parc d'attractions. Depuis que les talibans sont là, hommes et femmes n'ont plus le droit d'y aller ensemble. Et le seul jour où les femmes y sont tolérées, c'est le samedi. Ça fait des jours que nous rêvons de cette sortie. Fidèle à son habitude, Mina change plusieurs fois d'avis avant de se décider à sortir. Et puis, qui emmener ? Il n'y aura pas assez de place dans le rickshaw pour tous les enfants. Moi, j'aimerais emmener Nadia et ses deux frères, les trois enfants de Basri et Wali, qui ont peu l'occasion de se changer les idées. Asia, Nazia et Bibi, les trois filles de Nazim, viendront également. Les filles se font une fête de cette sortie à laquelle elles rêvent depuis plusieurs jours. Elles ne sont pas retournées au parc depuis ma dernière visite, 4 ans plus tôt. Mais au dernier moment, Mina décrète que nous sommes trop nombreux et que Bibi doit rester à la maison. La jeune fille ne répond rien, résignée à obéir aux ordres de son aînée. Je vois sa déception, ses larmes silencieuses. Mais elle ne dit rien. Nous partons donc sans elle et nous nous entassons dans un rickshaw. Les petits sont accroupis sur le rebord arrière. Nous sommes 4 femmes sur la banquette. Nadia est sur mes genoux. Et Wali, notre chaperon, prend place à côté du chauffeur, devant, son fils sur les genoux. Au bout de quelques minutes, on est obligé de descendre car le rickshaw n'arrive plus à avancer. Après une centaine de mètres, nous remontons enfin et à un autre carrefour, on change de véhicule. Wali traîne derrière, occupé à marchander le prix de la course avec le chauffeur précédent. Le nouveau chauffeur nous regarde dans son rétroviseur, inquiet de se retrouver seul avec des femmes. Avant de s'adresser à Madina, il lui demande « Tu as l'autorisation de parler aux hommes, toi ?» Heureusement, Wali arrive à ce moment-là. Et on repart. On longe des rues bordées de chariots à roulettes sur lesquels sont disposés des légumes. Ils sont tous recouverts de parasols rouges qui s'alignent à l'infini. Dans ce quartier de l'est de Kaboul, à dominante Pashtoun, les rickshaws, d'influence indo-pakistanaise, sont majoritaires. Alors qu'au centre-ville, on se déplace plutôt en taxi et en minibus collectif. À l'entrée du parc d'attractions, Wali est sommé de rester dehors. Le samedi, les hommes ne sont pas autorisés à entrer, et nous voilà entre femmes, dans le parc presque vide, au milieu de manèges à l'arrêt. Très vite, nous retirons nos masques et desserrons les foulards qui enserrent nos fronts. Drôle d'impression que de voir la grande roue arrêtée. Devant chaque manège, un employé attend les clientes dans sa petite cahute. $50 par manège et par personne. Les enfants ne payent pas. Les manèges sont mis en marche rien que pour nous. Timidement, nous nous installons dans les voitures colorées. En 2018, déjà, nous étions venus au parc d'attractions avec Mina, pendant les congés de l'Aïd. À l'époque, les allées fourmillaient de monde, les enfants couraient, ils réclamaient de l'argent pour refaire un tour de grande roue, et leurs parents les regardaient en souriant. Aujourd'hui, tout a changé. Les restaurants et les terrasses sont vides. Et les employés ne font tourner les manèges que pour quelques rares visiteurs.
Ah,
voir leur sourire enfin, et les corps qui se détendent en s'installant sur les sièges colorés. C'est la première fois qu'elles s'envolent dans les airs et elles n'en reviennent pas de faire quelque chose de leur corps uniquement pour le plaisir. Sentir l'adrénaline qui monte et le sursaut quand le manège accélère. Être projeté contre le dossier, puis vers l'extérieur, agripper machinalement la barrière métallique et sentir au fond de soi les lois de l'attraction. Le cœur qui se soulève, le souffle qui manque. Toutes ces sensations qui étaient là, cachées dans leur corps et qu'elles ne connaissaient pas. Toutes ces choses que leur corps pourrait faire si on le laissait un peu souffler, s'il sortait de sa routine, s'il avait le droit d'exister. En descendant du manège, Asya a les joues roses et quelques mèches de cheveux sortent de son foulard noir. Après un énième tour de manège, elle a cette phrase. J'ai trop aimé, ça m'a fait peur. C'était une bonne peur, qui fait du bien. Pas comme la peur des hommes. Elle nous dit, je comprends pas pourquoi les hommes ne veulent pas nous laisser faire ça, où est le mal? Je fais des vidéos, je m'amuse, et après, imagine, je les envoie à mon mari. Oh, il se mettrait tellement en colère. Il dirait, mais tu es allée là-bas? Tu es allée te promener? Sarah, mais qu'est-ce qu'il y a de dangereux ici? Pourquoi t'as pas le droit de venir? Asya, j'ai pas le droit. Il dit que les femmes doivent rester à la maison. Il dit que je dois lui demander la permission. Il dit que s'il me donne la permission, je peux y aller. Sinon, non. Sarah, pourquoi il a peur? Il n'y a pas de danger ici. Asya, il n'a pas peur. Mais il dit, les gens vont te voir. Sarah, qui peut te voir ici? Il n'y a que des femmes. Asya, mais non, regarde. Là-bas, il y a un homme et là-bas, un autre. Mon mari, il dit que si des hommes me voient, que c'est pas dans l'islam, ça, que les hommes puissent voir les femmes ou que les femmes puissent voir les hommes. Que c'est péché. C'est un péché pour les yeux. Quelques mètres plus loin, on entre dans un restaurant entièrement vide et on commande des brochettes de viande, du pain et des samoussas aux pommes de terre avec des jus de fruits. Le soleil se couche. On regarde les enfants sur les balançoires, leur rire et leurs petits pieds qui frappent le sol. Alors qu'à la maison, le seul jeu consiste souvent à se frapper les uns les autres avant de courir se réfugier en larmes dans les bras de leur maman. Asya leur achète des glaces. Et nous restons encore un peu dans la nuit à les regarder courir en implorant « Allez, encore une descente de toboggan !» On demande à Mina de nous prendre en photo devant la grande roue pour avoir un souvenir. Mina hésite. Et si on nous voyait ? Elle repère tout de suite quelques hommes qui se promènent aux alentours. D'après elle, ce sont certainement des talibans en civil. Regarde là-bas. On pensait que c'était des promeneurs, mais en fait, ce sont des gens du gouvernement. Ils surveillent ce que font les gens.
Oui, parce que c'est pas grave, vous comprenez, nous on a le droit, ils ont tout.
Mais nous, on insiste. Sarah et moi, qui ne sommes pas pachtounes, on a le droit de se prendre en photo. À l'extérieur, Wally est toujours là. Il nous a attendus pendant tout l'après-midi. Il n'est ni en colère d'avoir tant patienté, ni intéressé de savoir comment ses enfants ont passé leur journée. Les autres non plus ne lui adressent pas la parole. Et un instant, je m'étonne de ce manque de communication entre le père et ses enfants. Nadia, sa fille, ne lui dit rien. Elle ne dira rien non plus à sa mère Basri en rentrant à la maison, alors qu'elle était si heureuse au parc. Mais rien. Les choses arrivent et disparaissent, et c'est tout. Le récit n'existe pas. Sur le chemin du retour, on achète des ballons aux enfants. Ils sont en plastique transparent et il y a un cœur orange qui clignote à l'intérieur. On n'arrive pas à les faire entrer dans le rickshaw et on roule comme ça, serrés les unes contre les autres dans l'habitacle. Les ballons flottent au vent. Je suis surprise d'entendre Mina discuter avec le chauffeur. Elle qui ne cesse de rappeler qu'elle n'a pas le droit d'adresser la parole aux inconnus. La journée a fait bouger quelques lignes. On ne le sait pas encore, mais une semaine après, les talibans interdiront totalement aux femmes l'accès au parc public. En rentrant, je demande à Asia si elle a peur des hommes. Elle me dit « J'ai pas peur des hommes que je ne connais pas. J'ai peur des hommes de ma famille. » Après la journée au parc d'attractions, Asia se demande pourquoi les hommes ne laissent pas les femmes s'amuser. Aujourd'hui, elle a vu d'autres femmes se promener avec leurs enfants. Et elle a réalisé qu'elle ne faisait rien de mal. Elle a dit « Qu'est-ce qu'ils ont, les hommes ? Pourquoi ils ne nous laissent pas venir ici ? Pourquoi ils ne nous laissent pas sortir ?» Les enfants, eux, ils ont encore des étoiles dans les yeux. À notre retour à la maison, c'est l'euphorie générale. On a rapporté des cadeaux à ceux qui ne sont pas venus. Des bulles de savon et des ballons. Et puis, Asia passe des chansons pakistanaises. Et soudain, les filles se mettent à danser. La pièce centrale se transforme en piste de danse. et les voilà qui virevoltent dans leurs voiles colorées. Tajbibi en vert, Basri en rose, Asia en orange, Mina en rouge et noir, et Nazia en bleu. Elle danse latan, la danse traditionnelle pachtoune qui s'exécute en cercle. Et même Tajbibi, d'habitude si réservée, se prête au jeu. Exceptionnellement, Asia se met à filmer avec son téléphone portable. Pourtant, se prendre en photo est interdit. Mais il faut garder un souvenir de ce moment-là. Et les règles semblent suspendues par la folie de l'instant. C'est le carnaval et son inversion des bienséances. Et elle tourne, leurs voiles s'étirent dans les airs et les visages s'inscrivent sur l'écran du téléphone. Pour une fois. Pour une seule fois. Et soudain, Mina s'effondre. C'est le retour de l'accablement. Tout le monde dans sa chambre. La fête est finie. Ce soir, on effacera les photos. Asia apprend que son fiancé a appelé d'Allemagne et qu'il est furieux qu'elle soit sortie sans son accord. Elle nous dit « Il pense qu'on est toutes des idiotes, qu'on n'a pas vu le monde. » Il nous dit qu'on n'a pas vu le monde. Comment est-ce qu'on pourrait connaître le monde? Vous ne nous laissez pas sortir. Laissez-nous et vous verrez, on ira partout, on verra tout. Vous ne nous laissez même pas aller au bazar. Et vous nous reprochez de ne pas avoir vu le monde? On dort tout habillé. On ne fait pas sa toilette avant d'aller dormir. On ne retire pas ses vêtements de jour. Et le lieu où l'on dort n'est pas uniquement utilisé à cette fin. N'importe quel matelas servant à s'asseoir peut être transformé en lit. Il suffit de le recouvrir d'une couverture et de s'y allonger sans guère plus de cérémonial. Comme le concept d'intimité n'existe pas, on continue d'aller et venir dans les pièces où les autres dorment sans se soucier de les réveiller. Ici, on dort par à-coups. Par petits bouts. Un peu en journée, dans l'après-midi si on le peut, et le soir bien sûr, mais les nuits sont courtes, car on se réveille à l'aube pour la première prière de la journée. En Afghanistan et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dormi dans mes robes pachtounes, avec pantalon et foulard, prête à être surprise en toutes circonstances. Dès mon arrivée, j'ai dormi tout habillée pour faire comme tout le monde. Mais au bout de quelques nuits, je me risque à enfiler un pyjama. Chacune y va de son commentaire, évidemment. Mais peu importe. Je commence à accepter que je suis étrangère. Il est 2h du matin. Tout le monde est endormi. Je suis couchée sur un toshak dans la chambre de Mina, que je partage avec elle, son bébé, Asia et Nazia. Les filles se lèvent aux aurores pour la première prière de la journée et ne se couchent qu'une fois qu'elles ont terminé de faire la vaisselle et de balayer une dernière fois la maison. Tout est calme. J'enjambe le corps endormi de Nazia qui dort sur le tapis à côté de moi et je monte sur la terrasse. Enfin seul. Enfin l'horizon. Au loin, au-delà de l'enceinte, j'aperçois les montagnes de Kaboul et je me perds dans les étoiles. Le téléphone sonne. C'est Saïd qui appelle de France. On est tous réunis dans une pièce avec sa mère, ses frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces. J'entends sa voix au loin. La plupart des familles du voisinage partagent une même douleur, l'absence des hommes. Dans chaque famille, un ou plusieurs garçons sont partis sur les routes de l'exil. Dans les rencontres entre voisines, dans les taxis de Kaboul, on entend toujours parler d'un tel en Turquie ou d'un autre en France. Et les noms de pays lointains valsent dans les conversations de celles qui ne sortent jamais de leur quartier. Celles qui restent là n'ont plus que les noms de leur fils ou de leur mari à invoquer pour conjurer le sort. Les mères n'ont plus que la prière et le jeûne pour demander à Dieu de protéger leurs enfants sur les routes meurtrières de l'exil.
Il y a énormément de femmes dans ce cas-là.
Rien que dans notre famille, on est trois. C'est un gros problème pour nous de vivre ici et que nos maris vivent là-bas. C'est vraiment dur de vivre comme ça. Et encore, moi j'ai le droit de parler avec vous. J'ai obtenu cette permission avec de grandes difficultés. C'est notre plus gros problème que nos maris ne soient pas là. S'ils pouvaient rester, ils pourraient régler nos problèmes financiers. Ils pourraient gagner de l'argent pour nous. Personne ne veut partir. Mon mari non plus, il ne voulait pas partir, aller dans un autre pays. Il n'a pas envie de voir d'autres pays. Oui, pour faire du tourisme, pour voir, pourquoi pas, mais pas pour travailler à l'étranger. Mais c'est dangereux pour lui ici. Il y aurait des gens qui lui diraient « Allez, viens travailler avec les talibans ». Et si tu ne le fais pas, ils t'attaquent, c'est comme ça. Alors il était obligé de partir. C'est pour ça que nous, on ne veut pas qu'ils viennent ici. Ils sont mieux en Europe. Les Afghanes passent leur vie entière dans leur maison. Quoi qu'elles subissent, que ce soit des violences ou des abus, elles restent à la maison et elles endurent. Personne ne peut les aider ou les sortir de là. Soit parce qu'elles ont peur de leur mari, soit par manque de possibilités. Elles ne savent pas comment se sortir de cette situation. Elles ne sont pas libres comme vous. Soit elles ont peur de leur mari, soit elles ont des problèmes familiaux. Elles n'ont aucune issue. Je demande à Mina, avant qu'on puisse parler ensemble, tu m'as dit que tu devais demander l'autorisation à ton mari. Pourquoi ? Par peur. Et c'est ce que l'islam nous demande, qu'on doit avoir la permission de notre mari avant de faire quoi que ce soit. La première raison, c'est l'islam. Et la deuxième, c'est qu'on aime notre mari et qu'il faut qu'il sache ce qu'on fait et nous y autorise. C'est pas un problème de parler avec quelqu'un. Nous, on a un problème avec les photos. On ne prend pas de photos de nous, pas de vidéos. Mais on n'a pas de problème avec la parole. Vous pouvez entendre notre voix. Si notre mari nous y autorise, on peut. Sinon, on ne peut pas. Je lui demande, ton mari, il est où ? En France. Je ne sais pas exactement où, mais il m'a dit qu'il était en France. Et nous, on attend ici. Ça fait plusieurs années que je l'attends. Ça fait environ 10-15 ans qu'il est parti en voyage. Pendant toutes ces années, il est revenu une ou deux fois. Quand il revient, il est comme un invité. Comme vous, quand vous venez ici, vous passez quelques jours et vous repartez. Ils sont obligés d'aller ailleurs et de nous envoyer de l'argent pour qu'on s'achète quelque chose ici. La première fois qu'il est revenu, c'était pour notre mariage. Il a passé environ 20 nuits, un mois ici, et il est reparti. Il est revenu une autre fois, mais il n'était pas là quand j'ai accouché. Il n'était pas là pour m'aider. Il ne peut pas élever son fils. La seule chose qu'il fait, c'est de m'envoyer de l'argent pour que j'achète quelque chose à notre fils ici. Nos hommes ne peuvent pas faire comme les vôtres. Nous aider avec les enfants ou avec tous les problèmes qui peuvent arriver dans la vie. Ils n'ont aucune idée de comment on vit. Le lendemain, les filles de la maison décident de nous emmener au bout de la rue, dans une boutique qui vend des foulards, des tissus, des sacs à main et des chaussures. Leur mère ne sort plus depuis longtemps, mais elles autorisent les adolescentes à traverser la rue de temps en temps. On se prépare dans l'effervescence pour cette sortie qui sera l'événement de notre semaine. Les filles se moquent de ma façon d'entourer mon foulard autour de ma tête et décident de prendre les choses en main. Avant de sortir, elle se couvre d'une burqa. Quant à moi qui n'en ai pas, j'enfile ce que les Afghans appellent hijab, ce long vêtement noir qui recouvre les vêtements du cou jusqu'aux pieds. Un masque noir cache mon nez et ma bouche, et un grand foulard recouvre mes cheveux, une partie de mon front, ma poitrine et mon dos. En marchant, elle s'agrippe à mon bras. On se déplace en groupe, toutes les cinq. Les corps tanguent et on s'entrechoque les unes les autres. Les filles ne sont pas habituées à se déplacer dans l'espace. Leurs corps n'ont pas la force de marcher. Et leurs sandales ne sont pas à leur taille. Si bien qu'elles avancent en zigzag, instables et se tenant par la main. Asya ne lâche pas la mienne pendant toute la durée du trajet. Elle ne sait pas marcher dans l'espace public. Elle n'y est pas légitime. Elle remonte sans cesse son foulard qui a glissé ou rabat contre elle les pans de sa burqa. Alors qu'autour de nous, les hommes paraissent, parlementent, rient et boivent leur thé tranquillement. Autour de nous, les femmes courent d'un endroit à l'autre. Jamais légitimes, jamais chez elles. Elles portent des sacs de courses et des enfants, serrées les unes contre les autres pour se protéger mutuellement. Il y a toujours l'idée qu'un homme pourrait à tout moment leur demander ce qu'elles font là, où elles vont et avec qui. On traverse le bazar et on en profite pour acheter des bananes. Les gens nous regardent. Sur les étalages, il y a des amoncellements de fruits secs, d'amandes, de noix, de raisins et de noix de coco séchées. Des pyramides de pommes et de grenades, et des légumes, choux-fleurs, aubergines, épinards. Sacs de 7 kg d'oignons et de pommes de terre. Tu veux combien ? 1000 afghanis ? Pas maintenant, tout le monde nous regarde. Ne sors pas ton argent maintenant. Mina est inquiète. Elle a l'impression que tous les regards sont braqués sur nous. Dans les allées du bazar, des groupes de femmes nous bousculent, les hommes s'écartent, et de jeunes garçons cherchent à nous vendre des sacs plastiques pour y mettre nos achats. La foule est dense, et les bousculades incessantes. Devant la boutique, on retire nos sandales et on les laisse sur le seuil. Une fois à l'intérieur, les filles remontent le devant de leur burqa sur leur crâne pour observer les tissus, mais en conservant un masque qui leur cache le nez et la bouche. Mina demande à Sarah, « Et toi, tu as bien un masque ?» Il y a des tissus de toutes les couleurs, des sandales à strass, des sacs à main dorés. Au fond, il y a des burqas et des hijabs noirs. Mina demande au vendeur, « Combien pour celui-là ?» Le vendeur, « Hé, ma sœur, ces quatre, je te les donne pour le prix de trois, avec un en plus. » Mina, « Et celui-là, le maître est à combien ?» Le vendeur, « Ça, c'est en plus. » Mina, « Et le maître de celui-là, c'est combien ?» 320. Le vendeur, « Tu veux quel foulard ? Celui-là ? Pas celui-là ? Tu le veux pas ?» Sarah, elle veut pas celui-là, elle en veut un comme ça. Le vendeur, 150 pour celui-là. Mina, baisse un peu le prix, elles sont venues de loin. Le vendeur, alors tu le veux ou pas ? On a eu le droit de sortir au bazar, parce que les hommes nous y ont autorisés. En rentrant à la maison, on retrouve Basri. Son mari refuse qu'elle sorte de la maison. Kaboul, elle ne l'a vue qu'à travers les vitres d'une voiture, cachée comme une prisonnière. Je lui demande, « Comment tu as trouvé Kaboul ? Tu l'as vue, non ? Depuis la voiture ?» Basri, « Ah, c'est beau, Kaboul !» Tajbibi, « Moi, la ville de Kaboul, je ne l'ai jamais vue. » Basri, « Moi, je suis sortie comme une prisonnière. » Mais je regarde à travers les vitres de la voiture. Nadia regarde et moi aussi je regarde. Au début, quand les talibans sont arrivés, toutes les femmes sortaient en burqa. Et petit à petit, le prix des burqas a tellement augmenté qu'on n'en trouvait plus. Petit à petit, tout le monde a remis les hijabs, qui sont plus légers. Au tout début, quand ils nous voyaient en hijab, les talibans nous disaient « La prochaine fois, ne sors pas comme ça, pas en hijab. » Maintenant, ils ne nous disent plus rien. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont dû trouver quelque chose d'autre à faire. Maintenant, ils doivent gérer tout Kaboul, pas juste les femmes. Avant, ils n'avaient rien d'autre à faire. Ils étaient obsédés par les femmes. Au début, les gens faisaient des blagues. Ils disaient que depuis que les talibans étaient là, ils passaient leur temps à décrire comment les femmes étaient habillées. Partout où on allait, les talibans disaient « Regarde les femmes, regarde comment elles se promènent !» Thank you. Au détour d'une conversation, elles finissent toujours par parler de la violence des hommes. Mina à Basri, qui est sa belle-sœur. Dis-lui comment il te battait, ton mari. Il te frappait? Oui, mais je me suis fâchée et il a arrêté. L'autre jour, il m'a frappée moi aussi. Pourquoi? Quand il se fâche, il frappe. Mais moi, je me fâche et maintenant, ça va mieux. Pourquoi il te frappe? Qu'est-ce que j'y peux? J'étais allée chez ma mère, je suis restée 15 jours, et quand je suis rentrée, il était en colère. Parce que tu étais allée voir ta mère? Oui. Il m'a dit, pourquoi tu es restée si longtemps là-bas? Pourquoi tu t'es mal comportée? Et puis quand je suis rentrée ici, j'avais pris ma belle-sœur avec moi. Elle a passé une nuit ici avant de rentrer chez elle. Et il m'a dit, pourquoi tu fais ça? Je lui ai répondu, quoi? Tu ne sors pas toi? Tu ne vas nulle part? Il m'a répondu, ne fais plus jamais ça. Maintenant, il ne la laisse même plus aller au bazar. Depuis qu'on est là, je ne suis pas allée au bazar, ni marcher en ville. Je ne sais pas vraiment à quoi ressemble Kaboul. Moi, je ne sors jamais. Dans la navette de l'aéroport, j'ai retiré mon masque. Dans l'avion, c'est encore l'Afghanistan, et j'attends d'être dans les airs pour retirer le hijab qui recouvre mon corps de noir. Pas encore prête à retirer le foulard. Il faut 16 heures de vol, m'éloigner de l'Afghanistan, pour qu'à l'atterrissage à Istanbul, je retire l'épingle et déroule le tissu qui entoure mon visage depuis le matin. Je repense à toutes celles que j'ai laissées derrière moi. Mina, Asia, Bibi, Basri, Nazia et la petite Nadia. À Paris, je retrouverai Saïd. Et je lui apporterai un peu de son pays dans mes valises. Quant à elles, elles continueront de l'attendre. Cette femme, quatre murs et un toit, une maison afghane, Kaboul 2022. De Mathilde Webel et Gilles Mardirossian. Avec Mina, Asia, Nadia, Bibi, Taj Bibi, Basri, Sarah et Saïd. Remerciements à Abdul, Ahmad Shah et Khairo. Prise de son en Afghanistan, Sarah Herman. Mixage, Eric Boissé. Coordination, Aurélie Charon et Inès Duperron. Ce projet a reçu le soutien de Brouillon d'un rêve de la SCAM et du dispositif La culture avec la copie privée. Thank you.